الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد أخوتي في الله، ما زلنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله، مع شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وقبل أن نواصل فيما يتعلق بمسألة شراء المنزل، شراء المنزل عن طريق البنك، فبعد البحث وجدت أن شراء المنزل عن طريق البنك له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون دور البنك هو التمويل مقابل الفائدة، التمويل مقابل الفائدة. طيب، يعني دور البنك إذا أنت أردت أن تشتري منزلا أن تدفع عنك ثمن المنزل على أن تسدده مقسطا، طيب، على أن تسدده مقسطا مقابل فائدة يأخذها البنك، فهذا قرض في الحقيقة، قرض ربوي، هذا قرض ربوي محرم. ولا فرق بين كون الإنسان يشتري المنزل للسكنة أو يريده للتجارة فيه، لا فرق. Donc après avoir fait quelques recherches sur le fait d'acheter une maison en passant par la banque, les ulama disent il y a deux méthodes qui sont utilisées. La première, le fait que la banque elle va tenir un rôle d'une société qui va te faire acquérir une maison. Elle va faire de toi un propriétaire. Mais en retour, elle doit gagner quelque chose. En retour, elle gagne un profit, un bénéfice sur cet acte-là qu'elle fait. Taïeb ? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va payer pour toi la somme de la maison. Elle va t'avancer la somme de la maison. Elle va acheter la maison pour toi. Mais en retour, bien sûr, il faut que toi, tu lui donnes, tu rembourses, et en plus, tu lui donnes des intérêts, non, c'est des intérêts, mais eux, ils appellent ça des fawaïd. Des fawaïd, des profits, des bénéfices. Voyez ? Alors qu'en vérité, ceci est tout simplement un prêt basé sur de l'intérêt, et qui est interdit. Et il n'y a aucune différence entre le fait que tu veuilles acheter la maison pour y habiter ou pour faire un commerce ou pour tout ce que tu veux. Le résultat, c'est le même, c'est que c'est un prêt qui est basé sur riba, l'intérêt usuraire. Wa tariqatu thaniya an yashtari al-bank al-manzil. طيب. لنفسه اولا. يشتري المنزل لنفسه أولا ثم يبيعه عليك بثمن أعلى، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لكن يشترط خلو العقد من الشرط الربوي. وما هذا، ما هو هذا الشرط؟ يقول العلماء هو اشتراط غرامة في حال تأخر في سداد الأقساط، لأن غرامة هذه أو اشتراط هذه الغرامة ربا محرم. Deuxième façon, le fait que la banque elle va acheter une maison, mais pour elle. Elle va acheter une maison et c'est elle qui en sera le propriétaire. D'accord ? Ça y est ? En premier lieu, elle va l'acheter pour elle. Et puis, par la suite, elle va te la vendre à un certain prix, bil-aqsat, c'est-à-dire avec des paiements hein, en plusieurs fois, à un prix plus élevé. Enfin, là, elle va acheter d'abord une maison pour elle qui va coûter, je ne sais pas, 50 000 euros, là, 100 000 euros. D'accord ? La maison, elle a elle, la banque. Donc, tu viens, tu rentres à la banque et tu regardes les maisons qu'elle a. Ah, vous avez des maisons et vous les vendez. D'accord ? Eh bien, je voudrais bien acheter celle-là. La banque, elle va te la vendre. Elle va te dire, je vous la vends et tous les mois, vous me payez tant. D'accord ? Mais elle, bien sûr, elle se fait un bénéfice dessus. D'accord ? Donc, si elle la vend 100 000 euros, il se peut qu'elle ait acheté 80 000 euros. Et elle la vend 100 000 euros. Maintenant, est-ce que c'est permis dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, c'est permis. Ça, c'est du commerce. Ça, c'est du commerce. Il n'y a pas de problème. À condition qu'il n'y ait pas une autre condition derrière, qui est la pénalité en cas de non-paiement. Si elle te dit, par contre, si vous ne payez pas ne serait-ce qu'un mois parmi toutes les mensualités, vous devrez payer des pénalités. Hadala yatous. Ça, c'est des intérêts, ça aussi. Le fait de mettre comme condition les pénalités en cas de non-paiement, ça, c'est de l'intérêt. Mais s'il n'y a pas cette condition-là, c'est permis. Mais, il y a une autre tariqa que l'on voit dans, aujourd'hui dans des banques soi-disant islamiques. Vous voyez ? Qui ressemble un peu à ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est du riba masqué. C'est du riba masqué, je vais vous lire, inchallah, la fatwa des cheikhs. فالكوس حفظه الله تعالى كيف كيجي شيخ محمد علي فالكوس حفظه الله نعم يقول الصفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات والمسميات أحمد الله فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء فالبنوك الإسلامية الحالية لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية لماذا؟ حيث تتعامل تحايلا على الشرع هذا خطير جدا تحايلا أي حيلة على شرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع أي مستور ومغطى بالبيع حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر أو للشخص التي لا يمتلكها البنك أصلا لا يمتلكها البنك أصلا ولكن يشتري هذا المنزل طيب وليس له حاجة إليها أصلا وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة فيقصد مع التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقد صوري أخفي فيه القرض الربوي المحرم بنصوص الوعيد وأظهر فيه البيع. وفي الحديث، مع أن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح وهذا هو الواقع الآن، في هذا الحديث يقال: يأتي زمان على أمتي يستحلون الربا بالبيع، يستحلون الربا بالبيع، وعليه فإن تحقق فيه التعامل الربوي فلا يجوز شرعا أن نرشد إليه الغير، سواء ظهر الربا فيه أو خفية، وسواء علمنا أن السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، بما فيه من محذور عظيم مؤد إلى محاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والإرشاد إلى المعاصي والذنوب، تعاون على الإثم والعدوان. أما المضطر إلى التعامل المباح الذي لا حيلة له ولا مخرج إلا البنوك، فإنه يعرف بحكم الضرورة الحاجة الشديدة المنضبطة بالقيود الشرعية، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة. Donc, je vais traduire inshallah. Je prends la traduction du site de Cheikh Farkous, hein, que j'ai vu et qui est Masha'Allah. Donc il dit, Cheikh Farkous, les noms et les appellations attribuées aux banques ne correspondent pas forcément à ce qu'ils qualifient. Car ce qui importe, c'est l'essence du nom. C'est-à-dire, ce n'est pas le nom qui est important, c'est la chose qui porte ce nom. La réalité de la chose qui porte ce nom, ce n'est pas le nom qui est important. Hein? Donc c'est l'essence du nom et non pas le nom lui-même. Ce n'est pas parce que la banque te dit ça, c'est halal ou c'est... qu'est-ce qu'ils disent les banques religieuses, banques islamiques, hein? C'est une vente. Hein? C'est une vente, c'est un prix sans intérêt. Ils vont te dire c'est un prix sans intérêt. D'ailleurs, donc c'est pas le nom qui compte, il faut regarder la réalité de la chose. Vous voyez, Allah Jalla wa'ala, il va pas regarder les noms, il va regarder la chose elle-même, qu'est-ce que c'est. Hein? C'est pas parce que tu te dis c'est la vie que tu l'es. D'ailleurs, ce qui est important, c'est ce que tu es vraiment. C'est quelle est ta voix, ta croyance, c'est ça qui est important pour Allah Jalla wa'ala, c'est pas le nom que tu vas te donner. Hein? Il dit, actuellement, les banques islamiques ne diffèrent point dans leur fonds des banques d'usure. Essayant la ruse, ou essayant d'employer la ruse, regardez, c'est pire que tout en vérité. Parce que eux, non seulement ils utilisent riba, mais en plus ils rusent. Ils veulent faire croire aux gens que ce n'est pas des riba alors que ça en est. C'est pire. C'est pire que celui qui dit clairement qu'il y a des intérêts. Alhamdoulilah, lui il ruse. À l'égard de la charia, comme ils ont fait les Yahoudis. Ces banques islamiques utilisent ce qu'on appelle la vente al-murabaha, une vente à profit. Donc il appelle al-murabaha, mais en vérité, ce n'est pas une vente. Qui est en réalité, il dit le cheikh, un prêt usuraire. C'est un prêt qui est basé sur un riba. Mais c'est caché sous le nom de quoi? Al-bayru, la vente. De façon que la banque procède à l'achat d'une marchandise dont elle n'a ni la possession ni le besoin, à l'intention du commerçant. Alors la question, ça concerne les commerçants, ça peut concerner n'importe qui parmi nous. Le profit de la banque dans cette affaire consiste uniquement à réaliser un taux de gain. De cette façon, elle aura pour but de conclure avec le commerçant une vente qui n'existe pas en réalité et qui n'est qu'un acte imaginaire dans le prêt usuraire jugé illicite selon les textes d'avertissement, hein, et couvert sous le nom de vente. Il est cité dans un hadith qui est faible, voyez, mais qui nous dépeint la réalité aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit dans ce hadith: ma nation connaîtra une ère, une époque
ou elle fera de l'usure une chose halal par l'intermédiaire de la vente. C'est-à-dire que elle va se servir, elle dira que c'est de la vente pour justement pouvoir manger des intérêts usuraires. Hein? Attention à l'usure, les frères. قال جابر رضي الله عنه لعن رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. النبي صلى الله عليه وسلم il a maudit celui qui mange des intérêts, mais pas seulement. Comment ils te disent, c'est pas moi qui mange les intérêts, c'est la banque, moi je mange pas les intérêts, moi je les donne, c'est tout. En fait, il a maudit celui qui les mange, celui qui est délégué, hein, à procéder à la transaction ou à l'acte, au contrat, celui qui témoigne de ça, il témoigne de ça, vraiment il est témoin du contrat, hein, les deux témoins, et aussi Mana El-Khatib, celui qui a écrit le contrat. D'accord? Donc tout cela font partie de ceux qu'Allah et son prophète, il a maudit.
Pour info, même les découvertes, il y a des intérêts dedans.
Bien sûr,
il y a des découvertes. Je ne savais pas.
Non.
Moi, le premier. Hein.
Ah bon?
Ouais, je l'ai appris il n'y a pas longtemps.
Ils appellent ça comment? Les agios, là?
Toutes les banques. J'ai parlé avec la femme à la poste. Et moi, j'ai dit, il y a des... Ouais. Il m'a dit, en fait, si vous ne payez pas, c'est la même règle.
Parce que, en fait, les découvertes, c'est quoi les intérêts? C'est un intérêt par rapport à un prêt. Ils te prêtent de l'argent quand tu as déjà découvert. Quand tu as moins 100, moins 200, moins 300, ils t'ont prêté tout cet argent-là, ils te l'ont prêté. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu dépasses le zéro, ils te font payer des... Ils appellent ça des agios, je crois. Des agios. Hein? Mais encore une fois, agio, c'est plus beau que intérêt. Agio, ça fait peu. Hein? C'est joli. Mais ce n'est pas le nom qui compte. C'est la réalité de la chose. La réalité, c'est que c'est un intérêt. وهذا يسمى ربا ربا قرض. Ça c'est un intérêt de prêt. D'accord, il y a trois types d'intérêts, ربا نسيئة, ربا فضل و ربا قرض. Ça c'est un ربا de prêt.
Mais même si tu dépasses pas la somme, le fait que tu as accepté, parce que eux, si tu dépasses la somme, ils te font des intérêts. Mm-hmm. Donc le fait que même si tu dépasses pas, par exemple, tu vois, chaque mois on va dire que tu as 200 euros de découvert, tu fais que 100 euros. Le fait de l'avoir quand même, tu as accepté. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de l'avoir, tu as accepté quand
même. Alors, après, si tu dépasses pas, au final, tu leur donnes rien dans tous les cas. Si tu dépasses pas.
Ouais.
Donc, tant que tu leur donnes rien, c'est bon. Mais le mieux, c'est de le refuser direct. Ouais. Tu refuses, du moins, je veux pas d'intérêt. C'est une phrase.
Si tu refuses, ouais. Si tu payes à
non, non, tu peux, je vais parler avec la femme.
Moi, je peux pas.
Elle m'a dit. Il change de banque. Moi, LCL, moi, j'ai pas de compte, alhamdoulilah. Mais mon épouse, LCL, elle a pas de. Elle peut pas dépasser. Elle a pas de découvert. Impossible. Impossible. Elle peut pas dépasser. Après, il y a des trucs, des virements, des fois. Il y a des prélèvements, des fois. Non, mais les prélèvements, des fois, ils peuvent pas aller à l'encontre des prélèvements. Et du coup, s'il y a des prélèvements, tu payes des trucs en plus.
Là aussi, tu as des intérêts.
Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Il faut
vraiment. Des prélèvements automatiques, tout ça.
Voilà.
Des prélèvements, ça.
Voilà. Et oui, c'est pour ça qu'il faut surveiller. Il faut surveiller vraiment, regarder est-ce que tu as assez d'argent parce que pour pas tomber dans les intérêts. Par contre, tu as juste fini la fatwa. Tu es dit, sur ce, s'il advient que la banque. Donc, ça s'appelle El Baraka. Ici, la banque El Baraka. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense en Algérie en plus. Procède vraiment à cette transaction usuraire, alors il ne sera en aucune façon permis d'orienter les gens vers elle, que l'usure soit apparente dans la transaction ou cachée, et que nous soyons au courant que celui qui pose la question recourra à d'autres banques ou non, vu la grave interdiction qu'inclut cette transaction, qui est la guerre menée par Allah et son messager. El Haraba. Ainsi, le fait d'orienter autrui vers les mauvaises œuvres et la désobéissance insère une entraide dans le péché et la transgression. Après, à la fin, il parle de celui qui est contraint, qui n'a pas le choix. Il n'a aucune solution si ce n'est la voie des banques. Alors, cette personne, elle doit être informée du jugement concernant l'urgence ou l'extrême besoin. Daroura, qu'on lui appelle, c'est quoi Daroura aussi? D'accord? Parce que Daroura, la nécessité, la Daroura qui est permis de faire les interdits, c'est pas n'importe laquelle. Il faut que la personne sache ce que c'est. Tout en laissant, ensuite, une fois qu'elle sait ce que c'est vraiment Daroura, à elle de juger. C'est elle qui va se juger, est-ce qu'elle est vraiment dans la nécessité, en cas d'urgence, ou pas. Et selon aussi sa foi, bien sûr. La décision, il faut qu'elle prenne en craignant Allah, Jalla wa Ala. Donc après, en Algérie, moi je ne connais pas la situation en Algérie, mais en France, par exemple, tu n'es pas imposé, tu n'es pas contraint de faire ça en France. En France, tu loues une maison, tu loues un appartement. Il vaut mieux verser et perdre tous les mois un loyer. Certes, c'est perdu. C'est un loyer que tu vas jeter, taillé, tous les mois. Mais c'est mieux ça que qu'Allah, Jalla wa Ala, il te fasse la guerre, ainsi que son messager. Alayhi salatu wa salam. C'est bon, les frères? Donc là, quelle est la différence entre, du coup, entre ce qu'on a dit là et la tarifa qu'on a vu tout à l'heure qui est permise? C'est quoi la différence?
C'est que les banques, elles ont acheté déjà.
Voilà, elles ont déjà le bien. Elles l'ont acheté dans le but de faire du commerce. Vous voyez? Dans le but de faire du commerce avec. Mais la situation dont il a parlé ici, Cheikh, c'est toi, tu vas dans la banque. Tu rentres dans la banque, tu dis à la banque, moi j'aimerais acheter cette maison. Ouais, et la banque, elle te dit, oui, laquelle? Elle est où? Celle-là, d'accord, on va l'acheter pour vous et on vous la revend tant. Ouais. Ça, c'est une hila. Ça, c'est une ruse. T'as vu? C'est bon, les frères? Fais un instant, bien, Inch'Allah. Dakarna, Shurut, صحة البيع. الشرط الأول on a cité les conditions de la validité de la vente. On a commencé à les citer. D'accord? La première, on a cité quoi les frères, la première?
Consentement.
Consentement, assent. Al-rida. Al-taradi bayna al-aqidain. Le consentement entre les deux contractants. D'accord? La charte thani, c'est quoi? Non. La yakuna fiha gharar wa la jahala. Qu'il n'y ait pas de gharar ni de jahala. C'est-à-dire, premièrement, donc, ou la deuxième condition, si vous voulez, condition numéro 2, que le prix de la marchandise et la marchandise elle-même soient connus, soit définie, soit décrite. Ça, c'est la condition 2. Condition 3, qu'on soit dans la capacité de l'obtenir. C'est une chose qui est présente et qu'on peut obtenir. D'accord ? On n'a pas vendu un oiseau qui est en train de voler dans le ciel ou un poisson qui est en train de nager dans l'eau. Vous voyez ? Qu'on ait la garantie de pouvoir l'obtenir. C'est bon ? C'est la condition 1, 2 et 3.
Oui. C'est pas qu'il n'y a pas trop pris le besoin.
C'est ça. En fait, la 2 et la 3, ça rentre dans Al-Ghara. Al-Ghara, c'est quoi? C'est la tromperie, c'est ça, la trahison, qui fait que y a un risque, en fait. Il y a un risque. Que ce soit pour l'acheteur comme pour le vendeur, il y a un risque. D'accord? Non. Hada huwa Al-Ghara wal-Jahala. D'ailleurs. نعم ثم يقول أن يقول مثلا وهذه أمثلة في بيع الغرر مثال أن يقول البائع بعتك إحدى السلعتين بعتك إحدى السلعتين قال فإن كانت السلعتان مختلفتين في المقدار أو القيمة فلا يصح البيع للغرر هذا غرر كذلك مثاله أن يقول بعتك شاة من هذا القطيع بعتك شاة من هذا القطيع وأما إن كانتا متفقتين فيجوز كأن يقول بعتك كيس أرز من هذه الأكياس وهي مستوية في القدر والقيمة والنوع، ومثله السكر والشعير والآلات المتشابهة الصنع كالسيارات ونحوها. Autre exemple de غرار. Donc on avait cité, je crois, un exemple la semaine dernière concernant la vente d'un esclave qui s'est enfui, ou la vente d'un chameau qui s'est enfui. D'accord ? Là, il y a un gharar. Autre exemple, celui qui va te dire, moi je te vends l'une de ces deux marchandises. Je te vends l'une des deux marchandises. Sans te dire laquelle en particulier. D'accord ? Donc si les deux marchandises sont différentes au niveau de la quantité, au niveau de la valeur, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que c'est interdit. Il se peut que une des deux marchandises, elle coûte 100 euros et que l'autre, elle coûte 500 euros. Et toi, tu lui dis, je te vends l'une des deux. La valeur est juste. D'accord ? Dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Ou que tu dises, par exemple, je te vends un mouton parmi tous les moutons du troupeau. Je te vends un mouton parmi tous ces moutons, sans te dire lequel. C'est pas permis non plus. Comme toi, tu vas chercher le mouton pour l'Aïd. Il faut que tu choisisses le mouton. Tu regardes, tu choisis ton mouton, tu demandes le prix et tu payes. D'accord ? Mais que tu regardes comme ça et le propriétaire des moutons, il te dit, c'est bon, et Annie, tu prends un de ces moutons-là et ikhlas. Et après, tu payes, tu t'en vas. Tu n'as pas choisi ton mouton, tu n'as rien choisi. Il se peut que parmi tous les moutons, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont malades, il y en a infirmes, etc. Vous voyez ? Par contre, si les deux marchandises sont identiques, et il te dit par exemple, je te vends une boîte ou un sachet de riz, parmi toutes ces boîtes et tous ces sachets-là, et toutes les boîtes et tous les sachets, comme quand tu vas au supermarché, toutes les boîtes, tous les sachets de riz ou de pâtes, il y en a qui sont identiques, exactement avec le même poids, la même marque, la même variété, etc., etc. D'accord ? Dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le fait de vendre, par exemple, il te dit, je te vends une des boîtes de sucre, et toutes les boîtes de sucre, c'est les mêmes, avec le même poids, la même nature, etc., etc., la même marque. Pareil pour l'orge. D'ailleurs ? Ou également, les marchandises ou les objets qui sont identiques et qui ont été fabriqués de la même manière. Par exemple, deux voitures, tu arrives dans un garage et il y a par exemple, il y a 10 voitures, c'est les mêmes. 10 voitures, c'est exactement les mêmes, les mêmes options, le même prix, la même couleur, la même marque, etc., etc. Et tu as dit, justement, l'une de ces voitures-là, attends. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu es obligé de choisir l'une de ces voitures-là? Non. Parce que c'est toutes les mêmes. Il n'y a pas de différence entre ces voitures-là. Voyez ? Donc, si ces marchandises, elles sont identiques, il n'y a aucun problème. Par contre, si elles ont des différences, là, ce n'est pas permis. Là, c'est pas permis. Là, il y a un rare. D'accord ? Il peut que tu vas acheter une marchandise, du coup, qui ne vaut pas son prix. Il ne vaut pas son prix. Dans ce cas-là, c'est toi qui es perdant. Et il se peut aussi que tu vas acheter quelque chose qui est supérieur à son prix. Et là, c'est le vendeur qui est perdant. La fille, rara. Là, il y a tous.
Si on te dit, tu achètes pour 3 euros un de ce que tu veux.
Comment ?
Si on te propose d'acheter une marchandise au même prix, mais tu as le droit de choisir, en sachant que les valeurs sont différentes, c'est permis. Mais tu as le choix en fait.
Donc tu choisis ce que tu veux acheter, c'est bon ?
Même si les valeurs ne sont pas bonnes.
Comment ça, les valeurs ne sont pas bonnes ?
Même si c'est une vente à perte. Ou tu es perdant toi, en tant que consommateur.
Mais déjà, lui, le prix qu'il a fixé, normalement, c'est un prix qui... tu ne verras pas de commerçant qui va vendre un objet en étant perdant. D'accord ? Toi, tu rentres dans un magasin, tout est à 2 euros. Enfin, ça existe des magasins comme ça. Tout à 1 euro, là, tout à 2 euros. Mais non, à Marseille, voilà. Donc tu vas choisir un article, tu vas choisir de l'Akhlas. D'ailleurs, c'est bon. ثم يقول أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. وهذا ما يسمى بيع الحصاة، وهو أن يقول مثلا ارمي بهذه الحصاة فعلى أي سلعة تقع فهي لك بمئة، أو يقول ارمي بهذه الحصاة في هذه الأرض فما بلغت فهو لك بألف. ولبيع الحصاة صور أخرى مذكورة في كتب الفقه. Et ça c'est une façon de procéder aussi qui avait été mentionnée dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est la vente par le biais des cailloux, par le biais des cailloux, des jets de cailloux. Hein? Par exemple, il dit, le vendeur il va te dire prends le caillou et jette-le. Vous voyez? Donc devant toi tu as plusieurs marchandises et la marchandise qui va être touchée par ton caillou, eh bien c'est la marchandise qui sera à toi et que tu vas acheter pour 100 euros. Pour 100 euros. D'accord ? Il ne faut pas que tu casses l'objet avec ton caillou aussi, si tu le casses. Hein ? Ou alors il va te dire jette le caillou, il te vend par exemple une parcelle de terre. Une parcelle de terre, il te dit jette le caillou, et là où ton caillou il tombe, eh bien c'est la parcelle que tu obtiendras pour, mathala, 1000 euros, ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut que tu lances loin, machallah. Donc la vente des cailloux, elle a plusieurs façons qui sont mentionnées par les ulama dans les livres de jurisprudence. Dans tous les cas, toutes ces méthodes-là sont interdites. Ça rentre dans le rare. Mithal akha, aw ma tahminu amatuhu aw shajaratuhu. أي ما ستحمل أمته أو شجرته فهو معدوم ولا يصح بيعه لأنه مجهول وغير مقدور على تسليمه، فقد تموت الأمة أو شجرة، وقد تحمل الأمة يكون حملها ميتا وقد يكون توأما، وكذا الشجرة قد يكون حملها قليلا وقد يكون كثيرا فيحصل ضرر على البائع أو المشتري، وقد جاء النهي أو النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع أي المشتري. أخرجه البخاري ومسلم. Autre exemple, le fait de vendre ce qu'il y a dans le ventre de l'esclave. Le bébé qui est dans le ventre, le fœtus dans le ventre de l'esclave, ou le fait de vendre ce qu'il y a sur un arbre avant même que les fruits soient mûrs. D'accord ? Donc, le fait de vendre ce qu'il y a dans le ventre d'une esclave, ou ce que va porter cet arbre-là. Donc, il y a un arbre, il n'y a aucun fruit encore. Et tu viens, tu dis à la personne, je te vends les fruits qui vont pousser. Hein? Les fruits qui vont pousser, je te les vends à temps. Mais ils n'ont pas poussé encore. Donc là, ça revient à vendre quelque chose qui n'existe pas. Ma'doum. Donc le ma'doum, c'est le contraire de al-ma'doud. Al-ma'doud, quelque chose qui existe. Al-ma'doum, quelque chose qui n'existe pas encore. Donc al-janin, dans le ventre de l'esclave, hein? C'est pas encore une chose que tu peux vendre. Comme les fruits ou les choses qui n'ont pas encore poussé dans un arbre. Donc le fait de vendre ces choses-là, la vente bien sûr n'est pas valide, car c'est une chose, car elle ne respecte pas ni la condition 2, ni la condition 3. La condition 2 c'est quoi? Le fait que l'on connaisse la chose, sa description, d'accord, comment elle est, etc. Et deuxième et troisième condition, le fait qu'on ne peut pas yani, les obtenir à l'instant du contrat de la vente. Hein? Pourquoi? Parce que elle n'existe pas, tout simplement. C'est bon, les frères? Non.
À l'informatique, par exemple, le logiciel n'existe pas encore. Mais on est obligé de conclure la vente, on donne les spécifications, ce qu'on veut, on dit ok, on va vous développer ça pour telle somme d'argent. Donc on fait une avance et on commence le développement. ça rentre dedans.
Et tu payes toi avant, tu penses que tu conclues le contrat avant ou...
Pardon?
C'est une, ou c'est juste une commande. Une commande que tu passes.
Ouais, c'est ça.
C'est une commande, c'est pas pareil ça. En plus, la chose que tu commandes, elle est connue. Parce que c'est toi qui veux la description, tu dis voilà, je veux quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le prix, il est dedans. Là, c'est une chose que tu connais pas. Pourquoi tu connais pas? Exemple, ben justement, il se peut que l'esclave en question, elle meurt avant d'accoucher. Il se peut que l'arbre aussi, il meurt avant même de donner des fruits. Il se peut également que l'esclave, le bébé qu'elle va donner naissance, soit mort à la naissance, ou qu'elle donne au contraire des jumeaux, ou des triplés. Donc il y a un rara selon ce qui va se passer, soit pour l'acheteur, soit pour le vendeur. D'ailleurs, et également pour l'arbre, il se peut que l'arbre, plus tard, donne beaucoup de fruits, il se peut aussi qu'il donne très peu de fruits. Qui ne donne pas du tout de fruits. Donc là, il y a un risque de dara pour le vendeur et pour l'acheteur. D'accord? Le client.
Est-ce qu'il peut y avoir un lien ou une analogie qui est faite avec le jeu du hasard par rapport, par exemple, avec Khali? Parce que tu vas jeter, autant tu peux acquérir un lien immense, autant tu peux tout perdre.
Non, bien sûr, il y a un lien. C'est une forme de muqamara. C'est un genre de pari un peu. Et tous les paris qui peuvent résulter de ce pari-là, un dara, un mal d'un côté ou de l'autre, c'est pas permis. C'est pour ça qu'on avait dit les assurances, ça rentre dans une forme de pari, les assurances. Parce que tu vas payer toi tous les mois, et au final, s'il t'arrive rien, eh bien tu es perdant, et c'est la société qui est gagnante. Mais si tu payes un mois, deux mois, dès qu'il t'arrive un gros truc, et que la société doit te rembourser une grosse somme, là c'est toi qui es gagnant. Donc c'est une forme de muqamara, c'est une forme de pari et de jeu d'argent qui est interdit. C'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu d'argent. Un jeu d'argent. Il y a du hasard dedans, dans le sens où on ne sait pas ce qui va arriver. Vous voyez? C'est vrai, hein? Non. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Ibn Umar, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit justement le fait de vendre des fruits tant qu'ils ne sont pas mûrs. Et tant qu'on n'est pas sûr qu'ils sont yani, sains et comestibles. D'accord? Que dire alors des choses qui n'existent même pas? Qui n'existent même pas. Fanaha al-ba'i' wa al-mubta'. Donc il a interdit non seulement le vendeur de faire ça, mais également l'acheteur de contracter ce genre de contrat. Mais c'est l'autre. Ou ma fi batni al-hamil. Ma fi batni al-hamil. Aymin bahimat al-an'am. Yaqul yabi'u al-haml alladhi fi batni al-hamil. Wa qad nuhiya anhu fi hadith ibn Umar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال في هذا الحديث أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة. أخرجه مسلم. وحبل الحبلة. الحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل. تمام؟ وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه الحبلة الحبلة. فالحبل الأول في قول حبل الحبلة حبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل ما في بطون النوق من الحمل. والثاني الذي هو الحبلة حبل الذي حبل الذي في بطون النوق أي حبل الحبل فهو بيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى فهو بيع نتاج النتاج بيع نتاج النتاج هذا لا يجوز. Autre exemple, le fait de vendre ce qu'il y a dans le ventre de l'animal. On a vu ça pour la semaine dernière, ça, pour le lait aussi, ce qu'il y a dans les mamelles de l'animal. Al-Muhim, il dit le fait de vendre le bébé qui se trouve dans le ventre de l'animal, ceci est interdit, comme il a dit Ibn Omar, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre Habal al-Habala. Habal al-Habala. Donc on a deux termes ici. On a Habal et on a al-Habala. D'accord ? Hadith il est mutafiqan alayh. Donc Habal, c'est le masdar. C'est la racine du mot et ça va désigner ce qui est porté par l'animal. On dit, en général, on ne dit pas Habal pour. Il n'y a que de ce hadith qu'on voit ce. En général, on dit Hamel pour l'animal. Habal, c'est l'être humain. Habal aussi. Pour l'animal.
Non, pour la femme.
Pour la femme. Oui, en général, c'est pour l'être humain. Pour l'animal, on dira Hamel.
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 C'est pareil que Hamila.
Hamel, Hamel. Hamel. Pas Hamel, on dit Hamel. Pas besoin d'utiliser au féminin. Il n'y a que la femme qui peut être en. Qui peut être enceinte.
J'ai entendu Hamil à plusieurs
fois. Non, mais la Kinala Afsah, t'as qu'on Hamil.
Hamil.
Ça, c'est mieux. Hamil. Comme pour celle qui allait. Tu dis pas Mourdi'a. Tu dis Mourdi'a. C'est-à-dire que la femme qui allait. C'est plus éloquent de dire Mourdi'a que Mourdi'a. Non. C'est bon? T'as. Donc, le Habl, c'est ce qui est porté par l'animal. On peut dire aussi Hamil. En général, on dit Hamil en général. Et lorsqu'on va rajouter le terme Rbouta à la fin, Al-Habala, c'est pour dire que c'est une femelle. Al-Habala. Que le bébé qui est dans le ventre, c'est une femelle. Habala. Tayyib. Donc le premier Habal qui est mentionné par le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement la chose qui est dans le ventre. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Al-Thani, Al-Habala, avec le terme Rbouta, qu'est-ce que c'est? Habalu alladhi fi butun an-nukh. C'est ce que va porter plus tard à l'avenir le bébé. Donc là, non seulement, c'est pas tu vas vendre juste le bébé, tu vas vendre le bébé qu'il va donner plus tard. Subhanallah. Là, il va loin là. Taïeb. Là, c'est. Voilà. Donc cette forme de vente, bien sûr, le fait de vendre le bébé et que va apporter le bébé, bien sûr, ce n'est pas permis non plus. Parce que là, ça revient à vendre le produit du produit. Le produit du produit. Déjà c'est de vendre le produit, déjà en lui-même, c'est interdit. Le fait de vendre un bébé tout seul, qui est dans le ventre, encore, c'est interdit. Par contre, si tu vends la mère, non. Si tu vends la mère, d'accord? Même si elle est enceinte, d'accord? À condition que tu ne montes pas le prix en disant, vu qu'elle est enceinte, je te monte le prix, là, il y a une chose. Mais si le prix reste le même, qu'elle soit enceinte ou pas, il n'y a pas de mal, inchallah. D'accord ? Non. D'ailleurs. Thumma yaqul wa sawa'un kana al-gharru fi thamani aw al-muthman. Ay anna butlan al-aqdi. وتحريمه سواء إذا وجد الغرر في الثمن أو المثمن وتقدمت بعض الصور التي فيها الغرر في المثمن ومن صور الغرر في الثمن أن يقول مثلا بعتك هذه الشاة بمقدار ما في جيبك من النقود بعتك هذه الشاة بمقدار ما في جيبك من النقود راى انك ما شاء الله يعني رجل غني ولا يدري ما مقدار ما معه اليوم الحمد لله اليوم بطاقه كارت بلو فهذا غرر وجهاله فقد يكون ما في جيبه قليلا فيخسر وقد يكون كثيرا فيكسب هذا غرر في الثمن Puis il dit que le gharar concerne le prix ou la marchandise. Que le gharar concerne le prix ou la marchandise. Donc, le contrat il est invalide et il sera interdit que el-gharar, la tromperie ou el-gharar, concerne le prix ou la marchandise. Donc on a vu les exemples précédents, mais ces exemples-là, ils concernaient la marchandise. D'accord ? Les exemples maintenant concernant le prix. Premier exemple, le fait que le vendeur, il dise, je te vends ce mouton au prix de l'argent que tu as dans ta poche. Je te vends ce mouton au prix de l'argent que tu as dans ta poche. Donc il a vu ben, là, que tu avais une liasse de billets dans la poche. Hein? Un mouton à 1000 euros. 1000 euros le mouton. Vous voyez ? Mais il ne sait pas. En général, il ne sait pas ce qu'il y a dans ta poche. Tu vois ? Ah, t'as gharar. Donc c'est un gharar, c'est une jahala. Hein? Parce qu'il ne sait pas combien tu as. D'accord ?
Ça, c'est concernant le vendeur. Là, c'est lui qui fait partie de l'égarement. C'est pas nous, puisque c'est lui qui propose.
Eh ben. Mais toi, si tu connais
le... Si j'accepte,
voilà.
Si je fais partie
voilà. De l'égarement. Voilà. Donc il se peut que dans ta poche, tu aies 10 euros. Tu as gagné. Tu as acheté un mouton de 10 euros.
Mashallah. C'est l'égarement quand même, non ? Admettons, même si j'ai peu. Et que le gars, il me le vend à 10 euros. Comme on dit.
Le contrat, il n'est pas valide déjà. Le contrat, il n'est même pas valide. Donc tu auras acheté quelque chose injustement. Et Allah, il interdit l'injustice dans le fait de manger les biens des autres injustement.
À part s'il accepte, s'il te dit je le vends 10 euros, même s'il vaut cher.
Non, si c'est basé sur ça, c'est interdit. Non, s'il se base sur ça.
Non, si la marchandise elle coûte cher, mais qu'il décide de la vendre à 10 euros.
De lui-même,
de lui-même.
Sans qu'il passe par,
par
ta poche.
Non.
Là, ça c'est son problème.
Là, c'est une vente. Voilà.
Ouais, c'est une vente quand même.
Si, si il te dit combien tu as, tu lui dis 10 euros, tu dis après je te vends 10 euros. Ça dépend comment c'est tourné ou pas.
Combien tu as ?
Ouais. Ah ouais, c'est vrai.
Ça peut arriver dans des marchés. Ouais. Tu dis combien tu as sur toi, tu dis 5 euros, tu dis ben donne-moi 5 euros. Ça, tu vois ?
Ouais.
Mais c'est pas tourné. C'est, y a pas
de non, non c'est pas pareil.
Tu parles de toi.
C'est pas pareil ça. Ouais, ça c'est pour un paquet de bonbons. Là. Ça, c'est pas pareil. Tu feras jamais ça pour un objet qui coûte cher, ça n'existe pas. Ça. D'accord ? Mais le fait de. Non, là, c'est, ça rentre, comme on a dit tout à l'heure, dans le jeu de hasard, dans le jeu d'argent, de hasard. C'est pareil. Je te vends, lui, dans sa tête, il se dit, ben, je vais être gagnant, ben, je vais être perdant. D'accord ? Donc, c'est ça qui est interdit. Donc, si tu as très peu d'argent, c'est lui qui va être perdant. Mais bon, s'il fait ça 50 fois dans la journée, peut-être qu'il va être gagnant 40 fois et perdant 10 fois. À la fin de la journée, il est content, il a fait sa journée quand même.
Et si tu, dis, et si tu dis, si tu trouves moins cher, je te le rembourse. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir.
Ça, c'est, non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Il se peut que tu aies beaucoup, et cela, c'est toi qui es perdant. Vous voyez ? En général, tu sais ce qu'il y a dans ta poche. Donc, tu n'as pas envie de dire oui, alors tu sais que tu as. Hein? C'est juste un exemple. Hein? On ne dit pas que ça peut arriver, mais c'est un exemple pour montrer que quand il y a un gharar dans le prix, c'est interdit, comme quand il y a un gharar dans la marchandise. Ashart al-Rabi'a. Donc on a vu trois conditions. On va voir la quatrième. Ashart al-Rabi'a. An yakun al-aqidu malikan li shay. An yakun malikan li hada shay. Ou ma'adhuna lahu fihi. Wa hada huwa ashart al-Rabi'a. Wa huwa an yakun al-ma'qudu alayhi milkan il aqid. Ou ma'adhuna lahu bit tasarrufi fihi. وقت العقد من ملكه أو من مالكه عفوا كالوكيل أو مأذونا له من الشرع كولي الصغير ولي الصغير وناظر الوقف في حديث حكيم بن حزام قال c'est bon? La France, on peut sortir de la France ou c'est interdit? Non, parce qu'il y a un frère qui posait la question. Il m'a dit, je vais aller au bled à la fin du mois. Est-ce que je parle au bled ou pas?
Ah ouais, par rapport à l'épidémie.
Et ouais.
Mon beau-frère qui est parti maintenant.
Normalement.
Non, mais par rapport au hadith, faut que je pose la question à Shalah, je ne parle pas.
Non. S'il a pas la maladie.
Eh non.
Comment tu sais que tu l'as pas? Il y a des tests.
Si tu passes les tests.
Ah, si je fais les tests, c'est sûr. Mais est-ce que tout le monde va faire les tests avant de partir au bled?
Apparemment, ils font.
Ah, ils font? En Algérie. Mais les Français qui vont là-bas.
Les Français qui vont en Algérie.
Mais même s'ils se font contaminer là-bas, c'est pour ça.
Non, mais je te veux dire.
Ils ferment les frontières.
Avant. Non, ils n'ont pas fermé les frontières. Ils n'ont pas fermé les frontières.
C'est de l'as d'être contaminé comme
ça. Ils ont ouvert, mais carrément.
Avant de partir.
Non,
ils font le test là-bas. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, alhamdoulilah.
Ouais, l'entrée.
Ça c'est bien.
Au Maroc, c'est pas encore pour ça. Ils négligent.
Ouais. Non, par peur de tomber dans le hadith. Le ta'un. Après, les ulama disent que le hadith il est spécifique avec ta'un. C'est que la peste. Les autres maladies, tu n'es pas concerné par.
Mais apparemment, le ta'un, c'est pas que la peste, c'est une maladie contagieuse.
Le ta'un, c'est la peste. La maladie contagieuse, c'est le waba. Le waba, c'est les maladies contagieuses.
Et le hadith, c'est que ta'un alors.
Hein?
C'est que ta'un.
Ikhtalaf al-ulama. Monsieur Al-Rahili dit non. Al-Rahili dit le hadith, il englobe toutes les maladies contagieuses. Toutes les maladies contagieuses. Mais est-ce que nous, comment on fait? Est-ce qu'on doit attendre que le gouvernement ait interdit? Hein? Ou est-ce qu'on doit appliquer ça, même si le gouvernement il a pas interdit? Et sachant que ce n'est pas les pays qui sont pris en compte, c'est les endroits. Vous voyez? Par exemple, s'il y a une épidémie à Lille, mais qu'à Marseille, il n'y a rien, on n'est pas concerné. Parce que je veux dire, c'est pas les pays, c'est les endroits. Non, voilà. Dans tous les cas, comme j'ai dit au frère, le cheikh il va venir ce week-end. Donc, sinon il viendrait pas, sinon. Sinon il viendrait pas. Donc, tu poseras la question à la cheikh, c'est mieux.
À part s'ils sont pas au courant.
Cheikh il va rigoler. Je suis là, tu poses la question. Mais c'est bien de poser la question pour savoir. Voilà, faïda. Non. المهم ماذا يقول الشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا للشيء أو وكيلا طيب الوكيل وكذلك المأذون له من الشرع كولي صغير وناظر الوقف حديث حكيم بن حزام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أتباع له من السوق ثم أبيعه أي أشتريه من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل ويستثنى من هذا الشرط بيع السلم بيع السلم بالنص فهو بيع معدوم وليس عند البائع كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى quatrième condition donc on a vu la 1, la 2, la 3 voire la 4 le fait que le contractant soit propriétaire de ce qu'il vend d'accord que le vendeur soit le propriétaire de ce qu'il vend ou alors qu'il ait l'autorisation du propriétaire de le faire. Vous voyez? Ça, c'est la quatrième condition. Que tu sois propriétaire de ce que tu vends ou que tu aies l'autorisation de pouvoir vendre cette chose qui ne t'appartient pas. Hein? Donc, que tu sois propriétaire ou chargé de t'occuper de ce bien, on t'a chargé, on t'a délégué, ou que tu aies l'autorisation religieusement, comme le tuteur d'un enfant. Le tuteur d'un enfant qui n'est pas en âge encore de gérer ses biens. Donc toi, tu as le droit de gérer ses biens, bien sûr, pour profiter à cet enfant-là. D'accord ? Ou « nadir al-waqf ». Donc un waqfou, c'est une chose qui a été donnée pour être un bien commun. Un bien commun qui appartient à toute la communauté. D'accord ? Qui vient, Mathalan, il va construire une mosquée. Il va construire une mosquée, il va, avec son argent, et il va dire, cette mosquée-là, je la donne en tant que waqf, en tant que propriété absolue pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un waqf. Et il a désigné quelqu'un comme, on va dire, gérant de ce waqf. Quelqu'un qui va gérer ce waqf. Nadir al-waqf. Donc lui aussi, il aura le droit de gérer ce bien, taillé, avec l'autorisation, bien sûr, du waqf. C'est celui qui a acheté ou fait construire ce bien. Un mohim. Le hadith, donc, de Hakim ibn Hizam, le prouve. Il dit que je suis allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, un homme est venu me voir et il m'a demandé de lui vendre quelque chose que je n'ai pas. Il m'a demandé de lui vendre quelque chose que je n'ai pas. Il a donc demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux aller acheter cette chose-là au marché et après lui vendre? D'accord? Et là, le prophète lui dit, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Donc le hadith rapporté par les quatre Sahab Sunan, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Le hadith est Hassan. Il a dit l'imam Ibn Hubayra que les ulama, ils sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de vendre une chose que tu ne possèdes pas. Hein, le fait de vendre un animal que tu n'as pas encore chassé ou tué. Pas possible. Ou qui dépasse ta propriété ou ta possession. Tu ne vas pas vendre la voiture d'un frère ou de ton voisin. Ou de ton... Vous voyez, c'est pas ta voiture.
Hein? Si tu as donné la permission, oui.
Non, on a dit. Hein.
Non, non.
Vous voyez? Et ensuite, toi, tu te dis, je vais aller acheter la voiture pour la vendre, pour la revendre ensuite au client. Ça, c'est un contrat qui est batté. C'est un contrat qui est batté. Mais il y a une exception à cela, qu'on verra plus tard, Inch'Allah, qu'on appelle Bay'u Salam. Bay'u Salam. Sin Lam Mim. D'accord? On verra plus tard cette façon de faire qui est permise. Na'am? Pour faire simple, c'est le fait de vendre une chose que tu n'as pas, ou qui n'est pas présent entre les mains du vendeur, mais qui peut être permise. D'accord ? Et on verra donc en détail qu'est-ce que c'est bi'idhnillahi ta'ala. C'est quoi ? C'est clair avec ça ? Al-Shatr al-Khamis wa huwa balighun عاقل رشيد ما يكون العاقل بالغ عاقل رشيد هذا هو الشرط الخامس وهو أن يكون العاقل وهو البائع والمشتري جائز التصرف وذلك بتحقق البلوغ والعقل والرشد فيه ودليلهم عموم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لا تؤتوا السفهاء أموالكم فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه لأنه لا يحسن التصرف فقد يخدع مسكين وكذا لا يصح بيع الصغير ولا يصح بيع السفيه بغير إذن وليهما فإن أذن لهما صح بيعه إن أذن وليهما صح بيعه لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق ذلك بتفويض البيع والشراء إليهما وكذلك ينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لكن في شيء يسير هذا ينفذ بيعهما أو تصرفهما في اليسير حتى بلا إذن، حتى بلا إذن وليهما. وذكر ابن قدامة في المغني أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرثاه. أبو الدرداء اشترى عصفورا من الصبي، صبي صغير طيب، ثم أرسله رضي الله عنه. Ensuite, cinquième condition, que le contractant, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, soit pubère, doué de raison et quelqu'un qui est rachide, quelqu'un qui est rationnel, barakallahoufik, qui ne va pas faire des choses n'importe quoi avec son argent, ou qui ne va pas vendre ce qu'il a à des prix bizarres ou qui ne conviennent pas. D'accord ? Quelqu'un de, comme l'a dit le frère, rationnel. Continuez après l'adhan, inch'Allah. Ils appellent l'hôtel et ils disent voilà, est-ce que vous avez telle personne, l'hôtel a fait le jour, je vais dire oui, c'est fini, tu vois, ça va durer 5 minutes, alors si c'est une personne particulière, ça peut durer des heures, tu vois, c'est ça le problème, et c'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Après sinon on préfère... Après, lui fait ce qu'il veut. S'il arrive en France, qu'il est invité, il est invité dans d'autres maisons.
Si lui dit
il a le droit. Hein. Voilà,
il a le droit. Sinon, pourquoi tu lui dis non, tu lui dis il a dit je suis invité chez eux. Après, ils vont lui dire c'est qui, c'est chez nous.
Moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Invité.
J'ai vu qu'est-ce que tu me conviens. J'ai vu que tu as tout le temps. J'ai vu que
après nous, on peut l'inviter, il n'y a pas de problème, tu vois ce que j'ai. C'est à Marseille, là, pas cher, ou je sais pas.
Oh, ouais, c'est bon. Ou en ville.
En ville.
Ouais.
Tu vois, juste vendredi et samedi. Comme ça, s'il va peu.
Après, t'as un mec. Restitué. Parce qu'après, on va dire, c'est qui t'emmène, c'est qui t'emmène. Moi qui est venu seul.
Non, je pense pas. Ça, ah ouais, pas de problème. Ah. C'est rien, ça.
Ouais, c'est bon.
C'est rien, ça. Donc la cinquième condition, on a dit que la personne soit pubère, douée de raison et rationnelle. Rachid. La preuve, la parole d'Allah Jalla wa Ala, et ne confiez pas vos biens aux soufaha. Ne confiez pas vos biens aux soufaha, aux incapables. Ceux qui sont incapables de gérer ce bien. Donc, c'est pour ça que la vente d'une personne qui n'a pas sa raison. Hein? Toi, il y a une personne qui rentre dans ton magasin, elle n'a pas sa raison. Et toi, tu vas profiter pour lui vendre des choses. Parce qu'il... Cette vente, elle n'est pas valide. Ni la vente, ni l'achat. Lui, c'est pareil. S'il vient, et comme il n'a pas sa raison, il se peut qu'il te vende sa maison qui coûte je ne sais pas combien, tu la vends à 1000 euros. Hein? Parce qu'il n'a pas sa raison. Quand tu vas aller, tu vas signer les papiers, allez, viens chez le notaire. Cette vente, elle n'est pas valide. Subhanallah. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle n'est pas apte à gérer ce bien. Et il va être victime elle va être victime des gens qui sont mauvais, qui vont profiter de son état. Là, c'est même pas une réalité, là, c'est pas sa raison, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Non, sa vulnérabilité à sainte. Et également la vente de l'enfant. La vente de l'enfant. Ou la vente de celui qui est incapable de gérer, sauf avec l'autorisation du tuteur. De son père ou de son tuteur. Ça y est, ça c'est permis. S'il vient, il a l'autorisation de son tuteur. Abdallah, il peut procéder lui à la vente. D'accord ?
Il y a des enfants qui sont... comme tu vois au boulet, par exemple, tu as des enfants, ils sont pas pubères, mais ils font déjà là.
Ils peuvent se vendre.
Hein?
Là, il dit les chers. Hein? Là, il dit les chers, il faut qu'ils soient belles. Il faut qu'ils soient belles. Tu vois? S'il n'est pas belle, il faut qu'il ait l'autorisation de son tuteur. Donc, les autorités, Annie, ils doivent contrôler est-ce qu'il a l'autorisation de son tuteur ou pas. Normalement. D'accord? Si son tuteur lui autorise, la vente, elle est valide. Elle est valide. En vertu de la parole d'Allah Jalla wa Ala, wa abtalu al-yatama. Et testez les orphelins. Testez-les. D'accord? C'est-à-dire, regardez, afin que vous sachiez s'ils sont rationnels ou pas rationnels, s'ils sont aptes ou pas aptes à gérer ce bien-là. Et ça, tu ne pourras le savoir que si tu leur confies, justement, des choses à vendre ou à acheter. Et toi, tu verras s'ils sont aptes ou pas à procéder à ces contrats. Et s'ils sont aptes, eh bien, tu vas leur donner l'autorisation. Et une fois qu'ils ont ton autorisation, alhamdulillah, ils ont le droit de faire cela. Et également, concernant les choses qui ont peu de valeur. Les choses qui ont peu de valeur, il n'y a pas besoin d'autorisation. Un petit qui rentre dans une boulangerie, qui va acheter des pains au chocolat et des baguettes et des bonbons, on ne va pas lui dire « Est-ce que tu as l'autorisation de ton père ?» Non, là, c'est rien, ça.
Est-ce que ça rend la personne aussi qui n'a pas la raison ? Quelqu'un qui n'a pas la raison. Est-ce que pour une petite somme...
Non, on parle que « safir » ou « sarir ». On parle du petit, de l'enfant et de « safir », c'est-à-dire celui qui ne sait pas encore gérer, il ne gère pas. D'accord ? On ne parle pas de « majnoum ». On parle du petit et de « safir ». D'ailleurs, donc, par contre, s'il rentre et qu'il va acheter une chose qui a de la valeur, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, là, tu n'as pas le droit de lui vendre tant que tu n'as pas l'autorisation du père ou du tuteur. D'accord ? Donc les choses qui ont peu de valeur, là, ça va revenir au ouf. Ce qui est des coutumes des gens qui vont te dire, ah non, ça c'est rien, ça n'a pas de valeur, c'est pas grave. Et quand ça commence à atteindre des centaines d'euros ou quoi, on sait que là, ça commence à être des choses de grande valeur. Il dit l'imam Ibn Qutaym, fil Mughni, que la preuve que lorsque le petit, il vend quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, tu as le droit de lui acheter. Le hadith d'Abu Darda, radiallahu anhu, qui a acheté à un enfant un petit oiseau. Il a acheté ce petit oiseau-là, puis il l'a relâché. Il l'a relâché, radiallahu anhu. C'est clair, les frères ? الحمد لله نكتفي بهذا بإذن الله عز وجل والعلم عند الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك